Femme résistante.
Battante.
Liberté.
Courageuse.
Femme.
Engagement.
Révolte.
Liberté.
Résistance.
Déportation.
Portrait de femme.
Visible.
Et invisible.
Pendant la Seconde Guerre mondiale.
Portrait sonore réalisé par les élèves de 3e du collège Frida Kahlo à Pontchâteau.
Portrait de Charlotte Delbo.
Femme résistante. Aucun de nous n'aurait dû revenir.
Bonjour, je me prénomme Charlotte Delbo. J'ai à présent 21 ans. Et je suis étudiante en sténodactylographie. Fille d'immigrés italiens et membre actif des jeunesses communistes, je ne supporte plus les idéologies totalitaires et le racisme qui persiste.
Lundi 16 mars 1934.
Aujourd'hui, j'ai rencontré Monsieur Lefebvre, un personnage fort sympathique, mais quelque peu insistant. Cependant, nous partageons les mêmes idées. C'est un bon professeur.
Lundi 23 avril 1934.
Cette fois-ci, j'ai fait la connaissance d'un homme tout à fait surprenant. Il s'appelle Georges. Et il est très beau. Durant plusieurs jours, nous nous sommes revus. Je pense que je commence à l'apprécier.
Elle est juste merveilleuse. Les cheveux frisés, les yeux noisettes, le teint pâle et frais. Elle est magnifique. Elle s'appelle Charlotte. Charlotte Delbo. Dès que j'ai posé mon regard sur elle, j'ai su que c'était la femme parfaite. La femme de ma vie. Elle m'a raconté qu'elle était membre des jeunesses communistes. Elle me surprend de jour en jour. Elle est incroyable.
C'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine.
En 1936,
il y a de cela quelques jours, Georges et moi nous sommes mariés. Après de nombreuses sorties ensemble, il m'avait demandé de devenir sa conjointe. J'avais accepté de suite, sans hésitation.
En 1937,
j'ai été recrutée par un célèbre metteur en scène, Louis Jouvet. Goodbye le journal et bonjour le théâtre. Ce travail n'était pas fait pour moi.
En 1941,
nous sommes partis cet été avec Louis Jouvet et la troupe de l'Athénée en Amérique latine. Aujourd'hui, c'est l'hiver, et je suis en France, à Paris, car l'un de nos amis a été assassiné hier. Il se nommait Jacques Poul.
Ici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance.
Après un an d'occupation, nous devons nous battre afin d'éviter une nouvelle tragédie. Nous entrons en résistance. Le commandant en chef.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
Montée de la Tout au long de ma clandestinité, j'ai contribué à écrire des tracts pour des journaux clandestins et j'ai retransmis les nouvelles des radios de Londres et de Moscou. C'était dangereux et je le savais. Georges, quant à lui, a rencontré des contacts et transmis des informations. À ce moment-là, je ne pensais pas que la police déployait ses filets. Georges, Maï, Daniel, Lucien, André et Germaine, tous mes amis. Ils avaient tous été arrêtés à la mi-février. Puis ça a été notre tour, à Georges et moi, le 2 mars 1942, par les brigades spéciales de la police française. La dernière fois que je l'ai vu, Georges, mon ami, mon mari, la personne que je chérissais le plus au monde, c'était le 23 mai 1942, au Mont-Valérien. J'ai tout entendu. Les cris des hommes et des femmes, les ordres allemands que je ne comprenais pas, puis les tirs, les balles. J'ai compris que l'un de ces tirs, l'une de ces balles avait transpercé Georges, mon amour. Je pense avoir eu plus mal que lui ce jour-là. Plus rien ne m'importait. J'ai versé des larmes, beaucoup de larmes, et j'ai découvert la douleur d'un chagrin d'amour. Je suis restée 10 mois dans la tristesse et le regret, enfermée dans cette prison froide. Puis il y a eu la déportation. À ce moment-là, je ne pensais que rien ne pouvait être pire que ce que je vivais actuellement. C'était la plus grande guerre du monde, celle d'où l'on arrive et d'où l'on ne part pas.
Il y a ce départ de Compiègne et cette image qui pour moi est encore présente telle que vous la racontez. Vous êtes debout sur les camions, vous êtes 230 et vous criez, vous dites à tous les gens qui passent, les uns vont promener leurs chiens, les autres vont peut-être à la messe, il est très tôt le matin, il ne fait pas très chaud. Et vous dites, vous, debout sur les camions, tout, nous sommes des Françaises, des prisonniers politiques, nous sommes déportés en Allemagne. Il n'y a pas un œil qui regarde, pas un visage qui se détourne.
Les gens étaient apeurés.
Apeurés, c'est la peur.
Oh, vous qui savez, saviez-vous que la faim affaiblit les yeux, que la soif l'éternit? Oh, vous qui savez, saviez-vous qu'on peut voir sa mère morte et rester sans larmes?
27 mois de déportation.
Touché au cœur, pas d'aptitude pour la haine.
Oh, vous qui savez, saviez-vous que le matin on veut mourir, que le soir on a peur? Oh, vous qui savez, saviez-vous qu'un jour est plus qu'une année, une minute plus qu'une vie?
Écraser la dignité, sans froid.
Manière très simple, très froide.
Oh, vous qui savez, saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux, les nerfs plus durs que les os, le cœur plus solide que l'acier?
Être condamné à vivre.
Pire qu'être condamné à mourir.
Pourquoi est-elle morte et pas moi?
Pourquoi s'obstiner à vivre?
Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas? Qu'il n'y a qu'un mot pour l'épouvante, qu'un mot pour l'angoisse. Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite, l'horreur pas de frontière? Le saviez-vous, vous qui savez?
Je ne sens plus que c'est moi.
En 1985, après ma déportation, j'ai commencé à écrire tout ce qui me venait en tête, en maison de repos en Suisse. J'ai alors écrit « Aucun de nous ne reviendra », faisant partie de la trilogie « Auschwitz et après », que j'ai sorti 20 ans plus tard, comme je leur avais promis. J'ai parlé, j'ai tout dit, tout. Ce qui nous était arrivé, ce que nous ressentions là-bas. Pourquoi, nous? Personne ne peut répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pensé qu'aucun de nous ne reviendrait. À présent, je sais qu'aucun de nous n'aurait dû revenir.
Après sa convalescence en Suisse, Charlotte Delbault travaillait de nouveau avec Louis Jouvet de 1947 à 1951. Puis à l'ONU de 1951 à 1960. Et enfin, elle travaillait aux côtés de son ancien professeur, Henri Lefebvre, jusqu'à sa retraite en 1978. Finalement, au début des années 80, on lui diagnostique un cancer du poumon dont elle succombera.
Portrait sonore, écrit, interprété et bruité par Chloé, Eden, Maya, Inès et Mathis. Ce projet a été réalisé par les élèves de 3e E du collège Frida Kahlo à Pontchâteau, dans le cadre du dispositif Grandir avec la culture. Retrouvez l'ensemble des projets du Sonolab sur notre site au www.sonolab.fr. www.sonolab.fr.